Shokran, Roya, shokran. Alors, est-ce que mon micro marche et tout le monde m'entend? Bon, eh bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, merci d'être là. D'être là, d'ailleurs, très nombreux. C'est sûr que à 6h30, comme je le pensais, là, j'étais un peu surpris parce qu'il n'y avait personne. Ensuite, on m'a dit, c'est à 7h. À 7h, il n'y avait pas grand monde. On m'a dit, ah non, mais on est à Toulouse, il y a le quart d'heure toulousain. Bon, et en effet, c'est vrai que là, d'un coup, entre 19h et 19h15, la salle s'est remplie. Alors, un grand merci à l'association Averroès qui organise donc depuis 4 ans hein, ces rencontres. Un grand merci à l'association... L'ANPNPA, alors ils ne sont pas très marketing, hein, l'ANPNPA, parce que pour inventer un sigle pareil, c'est quand même difficile à prononcer. Donc c'est l'association des amis pieds noirs progressistes et leurs amis, c'est à peu près ça. Et non mais c'est très important parce qu'il existe, des pieds noirs progressistes. Et je le dis à la fois avec ironie, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a... Parmi toutes les idées fausses qui circulent en France sur cette histoire complexe de la colonisation française en Algérie, il existe parmi toutes ces idées fausses, l'idée fausse que les pieds noirs, c'est forcément des vieux fachos qui étaient et qui sont toujours pour l'Algérie française, etc. Bon, moi qui ai travaillé pour mon livre précédent justement sur les pieds noirs, donc ça c'est un livre qui est sorti il y a 4 ans sur les pieds noirs qui sont restés en Algérie après l'indépendance. J'ai moi-même découvert combien ce groupe social pieds noirs n'était pas du tout monolithique, mais au contraire il était d'une énorme diversité. Voilà, moi je suis très content d'être à Toulouse pour parler de ce livre. Alors, j'ai un lien plus ancien pour mes travaux avec Toulouse, puisque avant de m'intéresser à l'Algérie, je m'intéressais à la colonisation française au Vietnam, qu'on appelait en Indochine, et j'ai sorti, il y a maintenant 8 ans, un livre sur les travailleurs indochinois de la Seconde Guerre mondiale, et Toulouse, avec son ancienne Poudrerie est un lieu très important de l'histoire de ces travailleurs indochinois. Si je vous parle de toute mon œuvre vaste et passionnante, ce n'est pas simplement pour vous dire ô combien je suis un type qui a beaucoup travaillé et beaucoup publié, c'est aussi pour vous dire que je ne suis pas fixé sur l'Algérie. Hein, parce que l'Algérie, c'est y a un certain nombre de personnes... ensemble de chercheurs, bon, quand ils se tombent dans l'Algérie, enfin, il n'y a plus que l'Algérie, etc. Moi, le fait est que, je le précise tout de suite, que dans mon histoire familiale, j'ai la chance de n'avoir aucun lien avec l'Algérie. J'ai la chance de ne pas être un enfant de pieds noirs, par exemple, parce que quand vous êtes enfant de pieds noirs, je veux dire, l'Algérie, c'est dès le biberon, enfin, même déjà dans le ventre de votre maman, et puis ensuite, c'est l'Algérie. Je ne suis pas non plus un enfant d'immigrés algériens en France. Je ne suis pas non plus un enfant de harkis. Je ne suis pas un enfant d'appelé du contingent. Alors que je suis tout à fait de la... Enfin, mon père aurait dû faire... son service militaire en Algérie. Alors, est-ce qu'il s'est défilé? Enfin, il n'a pas grugé les lois, mais le fait est qu'il faisait... donc, il est de 1938, donc de la classe 38. Alors, je ne sais pas si c'est 38A, 38B. Mais il aurait dû être appelé en Algérie. Bon, il faisait des études supérieures et donc il a pu repousser son service militaire. Et donc, il l'a fait en 1963. Ouf, je dirais ouf, et il l'a fait à Baden-Baden. Vous voyez qu'on est quand même très loin du conflit algérien. Et je dis ouf parce que, voilà, parce que je sais que parmi tous ces chercheurs que je connais qui travaillent à mes côtés sur l'Algérie, eh ben, il y a quand même la différence entre ceux qui portent une histoire familiale sur leurs épaules et ceux qui ont les épaules libres de tout ce passé, à la fois très douloureux et donc très pesant par toutes ces douleurs. Donc là, ce soir, je vais vous parler donc de mon dernier livre. Alors, plus j'écris, plus c'est gros. Hein. Ça, c'était le premier, c'était sur les Indochinoves. Vous voyez que c'est tout à fait... Bon. Ensuite, les pieds noirs, c'était un plus gros. Et là c'est, ça a pris du poids, en effet. Mais je vous expliquerai comment il est construit. Et donc, voilà, là, avec ce livre, j'aborde peut-être le sujet qui est le plus... Oui, le plus délicat, le plus tabou, le plus instrumentalisé aussi en France et en Algérie, parce que là, ce soir, je vais vous parler des deux visions, hein, la vision française et la vision algérienne sur les harkis. Et quand je dis instrumentalisé, on a un exemple très récent, pour ceux qui ont suivi l'actualité, le 25 septembre, donc c'était il y a quelques semaines, d'un coup, tous les grands ténors politiques français, c'est-à-dire tous ceux qui pensent à être président de la République dans 7 mois, eh ben, ils se sont émus, le sort des harkis, oh là là, les pauvres, vraiment, etc., etc. Enfin, c'en était indécent. Indécent, après 50 années de silence, de mépris, d'enfermement dans les camps, enfin bon, d'oubli total de ceux qui sont restés en Algérie. Bon, là, d'un coup, oh là là, on verse des larmes de crocodile. Bon. Et c'est un sujet... voilà, c'est un des sujets les plus délicats parce que... il y a eu tellement de souffrance, tellement d'instrumentalisation que... aujourd'hui, pour beaucoup de personnes concernées par ce sujet, les plaies sont toujours béantes. Et ce qui fait qu'il est très difficile de faire de l'histoire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre en termes posés, en termes réfléchis, etc. Il est très difficile de faire de l'histoire avec les témoins ou les héritiers de cette histoire qui... ont encore des plaies ouvertes et bon, voilà, tout ça est un peu abstrait, mais c'était en guise d'introduction. Donc moi, comme beaucoup de gens en France, j'ai toujours pensé que les harkis, c'est-à-dire bon, en gros, les Algériens qui ont porté l'uniforme français à un moment ou à un autre des 7 années et demie de ce qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, de ce qu'on appelle en Algérie la guerre de libération. Donc que ces Algériens, en 1962, à la fin de la guerre, au moment de l'indépendance, eh ben, bon, on imagine tous que leur situation ne devait pas être agréable. Et donc là, à partir de là, s'est construit en France le discours suivant, auquel j'avais adhéré, sans y réfléchir, plus que ça, que, eh ben, ils étaient forcément dans une situation absolument épouvantable et qu'ils n'avaient eu le choix que soit s'enfuir en France et sauver leur peau, soit pour ceux qui n'avaient pas pu, et ils étaient la majorité, eh ben, ils s'étaient forcément fait tuer, et même le terme utilisé qui emprisonne, d'ailleurs que tout le monde utilise, c'est qu'ils s'étaient fait massacrer. C'est-à-dire que rester en Algérie, dans le discours commun depuis un demi-siècle, ça voulait dire se faire massacrer. Même pas tuer ou assassiner, non, massacrer. D'accord ? Et c'est d'ailleurs le mot qu'a repris François Hollande, le 25 septembre dernier. Et donc moi, j'étais dans cette idée-là, et donc, voilà, pour moi, bien évidemment, eh ben, il n'y avait plus aucun harki en Algérie. Et les seuls harkis eh bien, c'était ceux qui étaient en France et qui, en effet, apparaissent régulièrement à la télévision sous un aspect, d'ailleurs forcément, criard, je dirais. C'est-à-dire que quand la télévision française s'intéresse aux harkis en France, c'est uniquement quand ils s'enchaînent devant une préfecture et qu'ils crient. Bon. Sans s'intéresser à d'autres parcours de harkis ou d'enfants de harkis, beaucoup moins dans la tension, comme ça. Et donc, un soir, il y a 4 ans, je dînais à Paris chez une amie à moi, fille de harkis, qui s'appelle Fatima Besnassi Lankou. Besnassi, c'est son nom de jeune fille. Lankou, c'est son nom de femme mariée. Qui, donc, est née près de Cherchel, près de Tipaza, un peu avant la guerre. Et c'était la fille donc, du notable de son village qui s'est retrouvée donc, du côté, comme beaucoup de parcours de notables, ben, son grand-père s'est retrouvé du côté de l'armée française, sans lui-même porter l'uniforme, mais il a en quelque sorte donné ses 2 fils à l'armée française, au capitaine du village. Le village s'appelle Sidi Riles, il s'appelait à l'époque Novi, hein, c'est le nom colonial de ce village. Et donc Fatima, elle est née donc, d'un père harki. Voilà. Et en 62, le grand-père s'est fait assassiner. Et ses 2 fils sont partis en France avec leurs enfants. Et donc Fatima a eu ce destin d'enfant de harki arrivant dans des camps d'internement. Hein, alors on peut dire camp d'internement, camp de relégation sociale, etc. Et donc elle a fondé... Ensuite elle a fait des études. Et elle a écrit des livres sur son histoire. Et ensuite, elle s'est mise à organiser des colloques sur les harkis, etc. Et elle a fondé une association, comme beaucoup. Enfin, il existe beaucoup d'associations. Alors, on dit souvent des associations harkis. Le fait est que ce sont des associations d'enfants de harkis, parce que c'est pas les vieux monsieur aujourd'hui qui, d'ailleurs, beaucoup sont décédés. Hein, tous ces harkis venus en France en 62, mais ceux qui sont encore en vie, ce sont des vieux monsieur, c'est pas eux qui fondent des associations et qui animent des associations. Hein. Mais il y a, on dit harkis. Moi, je suis très sensible aux mots parce que ensuite, les enfants d'anciens harkis, eh ben, on les appelle aussi des harkis, et puis les petits-enfants, on les appelle aussi des harkis, et puis ils sont dans des associations harkis, donc ils sont tous harkis, donc en 2030, il y aura encore plein de harkis en France, enfin, faut arrêter le délire. Donc, il existe beaucoup d'associations, on va dire, d'enfants de harkis en France, qui ont des sites internet, et Fatima a une de ces associations, et elle me dit, ce soir-là, il y a 4 ans, lors d'un dîner, elle me dit, tu sais Pierre, maintenant que tu as fini avec les pieds noirs, tu devrais t'intéresser aux harkis. Je dis oui, moi ça m'intéresse, bon, j'y connais pas grand-chose, mais tu sais, bon, des livres sur les harkis qui sont venus en France, sur les camps, tout ça, il y en a plein. Bon, moi, j'aime écrire sur des sujets sur lesquels personne n'a jamais écrit. Et elle me dit, ah non, moi, je ne te parle pas des harkis en France, je te parle des harkis en Algérie. Et en plus, toi, tu as l'habitude d'aller en Algérie, tu peux y aller, etc. Bon, et je lui dis, comment ça, des harkis en Algérie? Elle me dit, ah oui, non, mais il y a plein de familles de harkis en Algérie, il y a plein de vieux monsieur encore harkis en Algérie. Bon, alors moi, j'ouvre des yeux grands, parce que j'étais sûr qu'ils avaient tous été donc massacrés. Et elle ajoute, et d'ailleurs, depuis quelques années, via mon site internet, je reçois, mais tous les jours, des messages de famille de harkis en Algérie, c'est souvent le fils qui va dans ce qu'on appelle un cyber. En Algérie, le cyber, hein, c'est cette petite pièce un peu sombre et qu'on trouve dans tous les villages, où donc parce que les gens n'ont pas de connexion à Internet à la maison, et donc on va au cyber et dans l'anonymat du cyber, donc et ben là on peut avouer par Internet en envoyant un message à une association de harkis en France, on peut avouer que je suis le fils d'un harki. Parce qu'en Algérie, on va le voir là, c'est impossible de dire ces choses-là. Bon. Et donc, Fatima me dit, oui, je reçois plein de messages, etc. Et là, on n'en parle pas. Bon. Et là, en effet, je me suis dit, ah ben tiens, oui, là, c'est un sujet pour moi, parce que c'est vraiment, c'est un truc dingue. En France, voilà, personne ne parle, voire personne ne sait qu'il y a plein de harkis encore vivants en Algérie. Bon. Et donc, je décide de me lancer dans cette nouvelle enquête avec un premier problème, c'est aller, enfin, les rencontrer, prendre contact avec eux et aller les rencontrer. Parce que, bon, déjà, je vous parle à peine du problème du visa, parce qu'on en parlait avec Alain, pour les gens qui vont de temps en temps en Algérie et qui n'ont pas la chance d'avoir la double nationalité et donc d'avoir le passeport vert, donc quand on est qu'on n'a pas le passeport algérien, on est obligé d'avoir un visa. Et moi qui suis connu comme journaliste qui écrit sur l'Algérie, parce que je ne sais pas si tu l'as dit, mais parallèlement à mes livres, je suis reporter au monde diplomatique. Et pour le monde diplomatique, donc je fais des enquêtes dans différents pays, dont l'Algérie. Et donc, moi, les autorités algériennes, elles me surveillent comme le lait sur le feu. Hein. Il ne faut pas que j'écrive n'importe quoi, ni que j'aille n'importe où. Et donc, moi, quand j'ai besoin d'un visa, il faut que je donne la raison pour laquelle je veux aller là 15 jours, 3 semaines en Algérie. Bon. Je pouvais pas dire la vérité. Dire que je prépare un livre sur les harkis, et là je le prononce à l'algérienne, pour les gens qui sont familiers comme moi avec la langue algérienne, quand vous prononcez à l'algérienne harki, il y a une violence dans le mot, c'est terrible. Ce harki, ouais, harki, ça passe. Mais harki, c'est pas un mot qu'on prononce comme ça avec des copains, on est en train de dîner et tout. Ouais, est-ce que ton père il était harki? Non, c'est impensable. Enfin, c'est bon, c'est extrêmement violent. Bon, et donc, bref, donc déjà le visa, fallait raconter des bobards. Bon, ça, quand on est journaliste, on sait raconter des bobards. Hein, ça. Enfin, bon, moi, je n'en écris pas. Ça, je peux en raconter comme ça, mais quand j'écris, non. Bon, c'est pas tous les journalistes. Mais ensuite, une fois sur place en Algérie, les vieux messieurs qui ont été harkis il y a 50 ans, en gros, c'est une population des villages, hein. c'est pas dans les grandes villes. Le recrutement, c'est à l'époque, il était à 98% dans les campagnes, le bled, ou dans les montagnes, le djebel, d'accord. Et donc dans ces villages très paumés. Et d'ailleurs, je pense que soudain que je vous avais préparé un petit diaporama pour illustrer ce que je dis. Alors c'est vrai que là vous êtes passionné, accroché à mes lèvres, mais je vais vous faire passer aussi des photos. Alors, avant de les passer, je vais vous expliquer. Il y a trois sortes de photos. Ah, voilà, et on va éteindre. Merci pour mieux voir. Il y a des photos d'archives en noir et blanc prises pendant la guerre. Vous reconnaîtrez ce style de photos d'archives. Donc, et c'est en général des photos où il y a des harkis, éventuellement avec des soldats français. Ça, c'est une première catégorie. Et sinon, Il y a la deuxième catégorie de photos, c'est les photos que j'ai prises moi pendant tous ces nombreux séjours que j'ai effectués en Algérie, donc pendant 3 ans, à la recherche de ces vieux monsieur. Non seulement vous verrez des visages de ces vieux monsieur anciens harkis que j'ai retrouvés, mais aussi les paysages où ils vivent aujourd'hui. Et ça vous donnera pour. Alors, pour les gens qui vont en Algérie, qui sont familiers, ça les amusera parce qu'ils vont reconnaître des endroits qu'ils connaissent. Et pour ceux qui n'ont malheureusement pas l'habitude d'aller en Algérie, eh ben, vous allez découvrir l'Algérie d'aujourd'hui avant d'y aller par vous-même. Donc là, ça devrait fonctionner. Je vais juste voir si la prochaine se lance. Oui, eh ben, bon, on va dire que. Ah bon, et là, c'est une photo couleur d'époque. Bon. Bref. Là, c'est maintenant. Eh ben, ce monsieur, c'est un des témoins qu'on retrouve dans mon livre. Ça vous embête pas que je continue de parler pendant que vous regardez les photos? Ça va, vous arrivez à faire les deux. Bon. Et donc, oui, mon deuxième problème, pour aller dans ces villages, rencontrer ces vieux monsieur, c'était d'échapper au service de sécurité de la police algérienne. Parce que, on va dire que la vraie obsession des autorités algériennes aujourd'hui face à un journaliste, un chercheur comme moi, c'est moins de surveiller ce que je peux écrire, les personnes que je peux rencontrer, que de me protéger contre d'éventuels terroristes qui voudraient me kidnapper, demander une rançon, enfin, voire me couper la tête. Et donc, là, il y a une règle automatique en Algérie avec des gens comme moi, c'est que on leur dit, écoutez, vous voulez aller dans ce petit village paumé à 300 km d'Alger, il n'y a pas de problème, mais on vous donne une escorte, c'est-à-dire 4 policiers en armes avec des kalachnikovs. Bon, vous imaginez bien que moi qui m'apprêtais à aller rencontrer des vieux monsieur harkis dans leur village où ça fait 50 ans qu'ils ont raconté à personne leur histoire et qui cherchent à se le faire complètement oublier, si je viens avec 4 flics en armes, je veux dire, c'est même pas la peine de faire les 300 km. Ils vont jamais me parler. Bon, donc, à chaque fois que j'arrivais, je louais une voiture à Alger, et là, je partais à travers vraiment toute l'Algérie, puisque dans ces 3 années, j'ai parcouru vraiment toute la bande habitée de l'Algérie, la grande bande nord. Je suis allé dans une soixantaine de villages, vraiment d'est en ouest. Et ensuite, la troisième difficulté, c'était naturellement de rencontrer ces vieux monsieur, d'entrer en contact, puisque, comme je l'ai suggéré, c'est impensable de se pointer dans un village et de dire là, comme ça, à la première épicerie qu'on croise, écoutez, bonjour, là, je suis un journaliste français, j'écris un livre sur les Harkis. Est-ce que vous pouvez m'indiquer là des familles de Harkis chez vous? Je vois qu'il y en a qui rient à la folie de ce genre de situation. C'est-à-dire que le mec qui tient la petite épicerie unique du petit village paumé, il sait où est-ce qu'il y a des familles de Harkis. Mais jamais il va le dire. C'est tabou. On ne le dit pas. On ne le dit pas. En quelque sorte, en 62, voilà, quand les Moudjahidines sont revenus au village, les Harkis sont revenus au village, il y a eu une espèce de pacte du silence où tout le monde a compris que ces 7 années et demie de guerre avaient déchiré la communauté villageoise Et là, bon, je ne m'étendrai pas, mais je décris ça plus profondément dans mon livre, mais il faut bien se dire que ces communautés villageoises à l'époque, alors aujourd'hui c'est moins le cas, mais ça reste encore, eh ben, c'était quelques grandes familles au sens large qui vivent ensemble depuis la nuit des temps, avec des relations, des mariages, etc. Une communauté villageoise, c'est un tissu relationnel très ancien. Et c'est ce tissu que la guerre d'Algérie a déchiré. D'accord? Bon. Et en 62, eh ben, les gens reviennent et ils réparent tant bien que mal ce tissu. Et en tous les cas, il y a une espèce d'accord tacite que on oublie. On tourne la page et on ne va pas ressasser en permanence. Oui, lui, il a été harki, etc. Ta, 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 ta. Bon. Et donc, en fait, moi, mes premiers contacts, eh ben, c'est à nouveau via ces associations en France et ces messages qu'ils reçoivent en permanence, parce qu'il n'y a pas que l'association de Fatima Besnassi Lankou qui reçoit ce genre de messages, mais j'allais dire, toutes les associations de harkis en France, d'enfants de harkis qui ont un site internet, reçoivent ce genre de messages. Et donc, plusieurs d'entre elles m'ont soutenu dans mon projet et donc m'ont transmis en fait les adresses e-mail des messages qu'ils recevaient. Et ensuite, moi, j'ai envoyé comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages, comme des espèces de bouteilles sur l'océan d'Internet, en disant: voilà, je suis un journaliste français, j'écris des livres d'histoire, je prépare un nouveau livre sur les harkis et leurs familles restées en Algérie. J'ai cru comprendre que vous faisiez partie de cette catégorie-là. Est-ce que vous accepteriez de me recevoir chez vous? Bon. Et donc, voilà, j'ai eu une réponse sur deux, déjà une réponse, et sur les 50%, j'avais voilà, 60-70% de réponses positives et 30% de gens qui me disaient d'entrée de jeu: non, moi je veux pas, j'ai trop peur. Bon, puisque en effet, il a fallu ensuite que je les mette en confiance pour que le simple fait de me recevoir ne les mette pas ensuite en danger. Bref, donc j'ai rencontré comme ça, au final, une soixantaine de vieux monsieur qui ont accepté de me confier l'histoire de leur vie, un récit donc qu'ils n'avaient raconté à personne. Et quand je dis à personne, dans la plupart des cas, c'est même pas à leurs enfants qu'ils l'avaient raconté. Et d'ailleurs, très souvent, quand ils se sont mariés, alors il y a 40 ans, 50 ans, ils ne l'avaient même pas dit de temps en temps à leur fiancée. Et souvent, c'est quelques années plus tard que leur femme apprend qu'elle a épousé un ancien harki. Bon. Et donc, peu à peu, il y a toute une, j'allais dire, toute une, un nouvel éclairage sur cette histoire complexe des harkis qui m'est peu à peu apparue. Avec, alors, plein de chapitres, de faits, mais je vais donner là, dans un premier temps, deux grandes idées, et ensuite, de toutes les façons, à partir d'un moment, vous allez pouvoir poser des questions, et puis on va affiner en fonction de vos questions à vous. Mais la première question qui se posait, c'était les motivations de ces hommes, il y a 55 ans, il y a 60 ans. Alors, au début, je disais de s'être engagé dans l'armée française. Mais très vite, j'ai vu que ce mot-là ne correspondait même pas à la réalité. Et les mots sont très importants, hein. Les mots sont très importants, puisque, en fait, la réalité, et là, c'était dans toutes les bouches de tous mes témoins. Donc, ce n'était pas juste certains qui ont ressenti des choses comme ça, d'autres non. Aucun d'entre eux ne disait, il y a 60 ans, je me suis engagé dans l'armée française. Aucun d'entre eux ne disait, comme on essaye de nous raconter en France depuis 60 ans, ne disait, je me suis battu pour le drapeau français. Parce que ça, c'est une des grandes erreurs du récit historique en France depuis 60 ans, c'est ce récit qui consiste à dresser le portrait du harki comme le bon musulman qui aurait choisi la France, qui aurait eu la fibre patriotique et qui se serait battu vraiment idéologiquement contre ceux qui voulaient l'indépendance de leur pays. Moi, la plupart des gars me disaient « Ah mais moi j'étais pour l'indépendance de l'Algérie ». Et alors, c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Parce que vous êtes face à des anciens harkis qui vous disent « Moi, j'étais pour l'indépendance de l'Algérie ». Et donc, c'est tous les schémas qu'on nous a mis en tête depuis 50 ans qui, peu à peu, sont obligés de se fissurer. Mais je vais essayer de garder la ligne de mon propos. Voilà. Donc, c'est pas « Je me suis engagé », c'est pas « Je me suis battu pour l'armée française ». Non, c'est « J'ai travaillé pour les Français ». Et ça, cette idée d'aller travailler pour les Français, que ce soit en français quand il parlait français ou bien de temps en temps, l'interview se faisait en arabe algérien. Donc, je vais parler sous l'autorité de mon ami Alain. Donc, c'était « Khdemt ». J'ai travaillé. Khdemt, l'armée française. D'accord ? Et donc, le fait est que, peu à peu, s'est dessinée cette idée très très forte que si on veut essayer de comprendre les motivations de ces paysans algériens d'être allés taper à la caserne française, il faut absolument avoir en tête de replacer ça dans le cadre général d'une misère paysanne terrible. Terrible, c'est-à-dire que déjà en 1954, on va dire qu'après 120 années de présence française en Algérie, quand l'armée française est arrivée en 1830, elle a trouvé un peuple paysan algérien dans la misère. 120 ans plus tard, cette misère n'avait pas bougé d'un pouce. Alors que la misère paysanne en France, en métropole, elle, alors il y avait eu un progrès terrible. Bon, donc là, on dit, mais l'Algérie, c'était comme la France. Non, là, il y a une très, très grande différence de développement économique des populations. Bon, et cette misère paysanne, elle a été fortement accentuée par les effets de la guerre elle-même, d'accord ? Qui brise un certain nombre de circuits économiques et ensuite s'ajoutent les déplacements massifs des populations paysannes. Alors, les historiens ont déjà largement travaillé là-dessus. Hein. En deux mots, c'est à partir de 1956, l'armée française décrète d'immenses zones interdites et oblige les populations de ces zones-là de se déplacer et elle les regroupe dans des immenses camps qui sont un des nombreux exemples des camps d'internement que la France produit depuis très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai travaillé sur les camps d'internement des travailleurs indochinois en France, là, c'est un autre exemple de camp d'internement. Et donc, on estime, sur une population paysanne à l'époque de 7,5 millions de personnes, on estime à 2,5 millions le nombre de personnes déplacées, c'est-à-dire arrachées du village, arrachées du maigre lopin de terre qui permettait la survie, et parquées dans d'immenses camps d'internement où règnent les maladies, la famine et la mort. Nous avons, il se trouve que nous avons un document très important sur les maladies et la mort qui régnaient dans ces camps d'internement, qui a été rédigé en 1961 par un jeune et brillant énarque, que je ne sais pas quoi, à la SFIO, et qui est envoyé, parce que la SFIO finit par s'inquiéter de la misère paysanne, et qui est envoyé pour faire un rapport sur ces camps d'internement. Ce jeune et brillant socialiste s'appelait Michel Rocard. Et donc, on a un témoignage très, 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 très important là-dessus. Bref. Alors, les motivations de ces Algériens à s'engager chez les Français, à aller travailler pour recevoir un salaire. Le salaire des harkis était fixe, c'était 25 000 francs à l'époque. D'accord ? 25 000 francs, il faut avoir un peu un ordre de grandeur. Bon, c'était beaucoup plus que la solde de l'appelé français de seconde classe, là, de base. Mais la solde d'un soldat de seconde base, c'est pas un salaire, c'est juste de l'argent de poche pour acheter des cigarettes. La solde, c'était 900 francs. 25 000 francs, c'était un peu plus que le salaire d'un ouvrier agricole algérien rémunéré à peu près correctement. Bref, avec ces 25 000 francs, le jeune Harki arrivait à faire survivre toute sa famille. Ses vieux parents qui crèvent de faim, ses petits frères et sœurs qui sont sous-nourris, etc. Bon. Et alors, c'est une des motivations principales. Ce n'est pas la seule. Hein. Il ne faut pas... Enfin, les parcours de vie sont complexes. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de l'épaisseur de mon livre, c'est que j'ai voulu montrer la diversité des parcours de vie, et notamment la diversité des motivations possibles. Bon. Une d'autres motivations, c'est des conflits villageois. Parce que ça pouvait être violent. Hein. Je vous ai dit, ils sont tous liés de façon ancestrale par des liens familiaux. Oui, mais il y a aussi, ils sont tous liés par des liens de coups de couteau dans le ventre. Genre, ton arrière-grand-père a zigouillé mon arrière-grand-père. 100 ans plus tard, on est toujours des ennemis. Bon, et si toi, qui es mon ennemi, t'es monté au maquis avec les moudjahidines, eh ben moi, comme t'es mon ennemi, ben, je vais aller chez les Français et avec un peu de chance, je vais tomber sur toi et je vais pouvoir venger mon grand-père qui a été tué par le tien en 1892. Bon, il y a aussi ce genre de truc-là. Il y a aussi, et ça, il faut en avoir conscience. Alors oui, il y a aussi, évidemment, la pression terrible exercée par l'armée française. L'armée française a développé l'art de faire pression sur les masses paysannes algériennes pour qu'elles basculent. Alors, un truc classique, par exemple, c'était vous encerclez un village, vous êtes capitaine de la caserne française d'à côté, vous encerclez le village à la recherche de ce que l'armée française appelait de fellaga. Bon, et là, vous capturez 4 ou 5 jeunes, vous les amenez à la caserne. Bon, tout le village se dit, oh là là, les pauvres jeunes, ils vont se faire torturer. Parce que c'était comme ça que ça se passait. Et là, vous ramenez les cinq, mais il y en a quatre qui se sont fait torturer et il y en a un, il n'a rien. Alors là, celui qui a rien, il est obligé de devenir harki. Parce que tout le monde pense que il a parlé, il a dénoncé et c'est pour ça que. Bon. Mais en fait, il n'a pas du tout dénoncé, on l'a juste laissé 24 heures dans une cellule, on ne l'a même pas interrogé, et on le ramène au village. Et ça nous fait un harki de plus. Fanhoum. Vous avez compris? Bon. C'était une des techniques. Bon. De l'autre côté, toujours quand on regarde la complexité des motivations possibles, il ne faut pas non plus négliger la violence exercée par la LN, c'est-à-dire par donc la LN, c'était la branche armée du FLN, donc c'est les Moudjahidines, hein, les combattants algériens, qui eux aussi exerçaient une certaine violence. Alors ils avaient beaucoup moins de moyens pour l'exercer, donc par définition, leur violence était plus faible. Mais il y a aussi eu de la violence, et d'ailleurs, le grand historien Mohamed Harbi a été le premier à écrire un texte en rappelant que, bien malheureusement, la LN avait elle aussi exercé une certaine violence sur les masses paysannes en pensant que. Eh bien, c'est par la violence que on gonfle ses troupes. Bon, finalement, c'est jamais comme ça que ça marche. Bref, ça c'est la grande question sur les motivations. L'autre grande question, et c'est la question des questions, c'est ce qui s'est passé en 62. D'accord? Y a-t-il eu Enfin, bon, voilà. Qu'en est-il de cette histoire de massacre généralisé des harkis restés en Algérie? Alors, là, bon, moi, à chaque fois que j'allais dans un village, j'avais réussi péniblement à entrer en contact avec un vieux monsieur harki. Bon, j'étais très très content d'en avoir trouvé un. Bon, et d'ailleurs, au début de mon enquête, je ne savais pas combien j'allais en trouver, je ne savais pas si déjà il en était vraiment resté beaucoup ou bien, bon, s'il en était resté juste quelques-uns, et puis bon. Donc moi, quand j'allais dans un village, j'avais le contact d'un monsieur, bon, j'étais déjà très content d'entrer en contact avec un monsieur. Bon. Et donc je passe en général toute une journée chez ce vieux monsieur. Et d'ailleurs, dans certains cas, moi, soit je dormais sur place, soit je revenais quelques temps plus tard, etc. Hein. Je pratique les entretiens longs. Hein. C'est pas, je suis pas une équipe de TF1 qui arrive à un endroit, hop, 3 minutes plus tard, ils ont enregistré et puis aux 20 h, ils vous disent c'est ça la réalité. Bon. Et donc. Chacun de mes vieux témoins, je demandais, bon, à l'époque de la guerre, dans le village, vous étiez combien à être allés travailler chez les Français? Alors, il y en avait toujours plus, hein, c'est parce que le recrutement ne se faisait pas individuellement dans les villages, c'était par groupe, on va dire. Donc, c'était minimum 10, mais souvent 15, 20. Et ce vieux monsieur, il les connaissait. Par cœur, on va dire qu'ils étaient 15, donc ces anciens 14 camarades, de toute façon, ils les connaissaient bien avant, et puis, bon. Et donc, ils pouvaient me sortir la liste des 14 autres. Et ensuite, je demandais, bon, sur ces 14, combien sont partis en France? Et là, ils me disaient, ben, il y a eu un tel et un tel. C'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, parenthèse, ensuite, j'ai fait tout un travail sur les chiffres hein, pour savoir finalement combien il y a eu de harkis en tout et combien sont venus en France. Et ça, les chiffres, bon, je vous les donne bruts, mais ils sont très détaillés dans mon livre. En tout, le nombre d'Algériens adultes qui a porté un jour ou l'autre l'uniforme français, c'est environ 400 000. C'est un chiffre énorme, hein. On est sur une population à l'époque de 9 millions. De 9 millions, femmes, enfants, vieillards, etc. Et là, c'est 400 000 hommes adultes. Bon, et sur ces 400 000, ceux qui sont partis en France, est-ce que vous avez une idée ces harkis dont on parle en France, là, tout le temps, on dit les harkis en France. Mais il y en a eu combien qui sont venus en France? Cela, votre président François Hollande, parce que moi je le trouve tellement con que c'est plus mon président, mais votre président a dit à nouveau une énorme connerie sur les chiffres. Il a dit 80 000 ou je ne sais pas quoi. Bon, il y en a eu 25 000. Sur les 400 000, il y en a eu 25 000, peut-être 30 000 maximum. OK? Alors, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont venus tout de suite avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, dès 62-63, ça a fait un groupe social de 80 000, 90 000. Bon. Mais c'est quand on compte les femmes et les enfants. Bref. Je reviens pour ceux qui suivent à l'entretien que j'ai avec le vieux monsieur. Et donc, sur les 15, deux sont partis en France. Et ensuite, combien ont été tués? Et là, c'était à chaque fois dans les 60 villages, les 60 entretiens, c'était à chaque fois soit aucun, soit un, soit deux, de temps en temps trois. Et là, à chaque fois, non seulement le type me disait le nom, parce que je vous dis, il les connaissait par cœur, il me disait les circonstances de l'assassinat. C'est pour ça que moi, dans mon livre, je ne parle pas de massacre, je parle d'assassinat, d'exécution, de meurtre. D'accord? Et donc, le type se souvenait très bien des circonstances de ces assassinats. Et donc là, moi, j'étais à chaque fois étonné parce que, a priori, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Et je lui demandais, bon, et les autres? Il me disait, ben, c'est comme moi, ils sont restés au village. Et d'ailleurs, si vous voulez en interroger d'autres, ben, je vous emmène, il y a machin ici, il y a machin ici, il y a machin ici. Bon, et puis, il y en a deux ou trois qui sont déjà décédés, mais de leur belle mort, ils sont au cimetière. D'accord? Donc ça, c'était le premier témoin qui me donnait ces chiffres-là, le deuxième aussi, le troisième, le quatrième, et finalement ça a été tous, tous. Et là, les seuls massacres dont mes témoins m'ont parlé, massacres au sens, alors bon, c'est un peu de la comptabilité macabre. Mais c'est pour faire la distinction entre un assassinat, un meurtre, et donc c'est un mec se fait tuer, et un massacre où là c'est on rassemble un groupe de personnes, alors au moins 5, 6, 10, bon, et là on les tue en même temps. D'accord? Bon. Or, moi, depuis que je travaille. Bon, de toute façon, depuis que je travaille et que je veux faire du travail sérieux, mais surtout avec l'Algérie et avec les pieds noirs, j'avais appliqué le même principe, c'est que moi, je ne retranscris ensuite dans mon livre que des témoignages de première main. Il faut que les gens, ils aient assisté à la scène qu'ils me racontent. Bon, par exemple, dans le livre sur les pieds noirs, j'ai tout un chapitre sur cette terrible journée du 5 juillet 62 à Oran. Alors les gens qui sont un peu familiers avec l'histoire, bon, tout le monde a entendu parler du massacre des pieds noirs. Là, c'est les pieds noirs, le 5 juillet à Oran. Bon. Et alors moi, bon, j'ai travaillé là-dessus. J'ai fait il y a plusieurs années, je suis allé à Oran faire un reportage sur cette journée-là, raconté par les Oranais, les Algériens. Okay? Bon, j'ai à peu près tout lu. là-dessus. Il y a un nombre de récits chez les pieds noirs sur le massacre à Oran. Bon. Mais dès que vous lisez vraiment sérieusement tous ces récits, il n'y en a que 2% où les gens racontent ce qu'ils ont vu, de leurs yeux vus. 98%, c'est on m'a raconté. J'avais ma cousine qui y était, donc je peux vous dire. Vous voyez? Bon. J'ai appliqué la même méthode avec les assassinats ou les massacres des Harkis. Et là, j'étais mes témoins. Ce n'est pas des anciens moudjahidines qui vous disent la main sur le cœur, ah non, nous, les harkis, on n'a pas touché à un cheveu de leur tête. Parce que là, c'est vrai que si c'est un ancien moudjahid qui me dit ça, bon, ce n'est pas sûr qu'ils disent toute la vérité, rien que la vérité. Bon, là, c'est des anciens harkis. Bon. Et donc, j'en ai un qui me parle en effet d'un massacre, un truc horrible, un truc horrible, dans le village. Donc, lui, il habite un village près de Agbou, dans les hauteurs de Agbou. Agbou, c'est la petite Kabylie. Et il me dit, dans le village en face, eh ben, en 62, la population a rassemblé tous les harkis du village, c'était 8 ou 10 personnes. Ils les ont emmenés en haut d'un piton, ils les ont entourés d'une corde et emprisonnés de cette corde, ils les ont balancés de la. Il y avait une vraie falaise, je ne sais pas quoi, 200 mètres, 300 mètres, ils se sont écrasés. Et mon témoin me dit, bon, et il y en a un qui a survécu, c'est celui qui était au milieu. Et je lui dis, mais est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous l'avez vu? Parce que, voilà, hein, moi. Il me dit, ah non, 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 moi j'y étais pas, mais bon, j'étais. Parce qu'il s'est fait prisonnier, ensuite il a été en prison, dans la prison de El Harach, pendant 7 ans, et il y avait un quartier pour les harkis dans la prison, bon, et donc chacun racontait ses histoires. Il m'a dit, c'est un type. Alors pas de ce village parce qu'ils sont tous morts sauf le survivant. Bon, mais bon. Et donc moi, je me suis dit bon, une histoire comme ça, moi j'ai ma règle, je vais pas la mettre dans mon livre si j'ai pas vérifié. Bon. Et je me suis dit en même temps, un truc comme ça dans un petit village, hein, on parle là, c'est toujours des tout petits villages. Un épisode comme ça, s'il a vraiment eu lieu, ben c'est sûr que la mémoire villageoise en a gardé des traces. Un an plus tard, je prends ma petite bagnole de location à Alger et je vais dans ce village voisin en face du témoin que j'avais rencontré un an auparavant. Je m'installe au seul café du village et c'est bien parce qu'il y a toujours des vieux dans les cafés. Les jeunes, ils sont au cyber et les vieux, ils sont au café. Et donc, je m'installe au café et, bon, et spontanément, eh ben, ce groupe, il y avait quatre ou cinq vieux monsieur du village, ils voient arriver un gaouri comme ça qui tombe de la lune et ils n'avaient pas vu un Français depuis le départ des derniers soldats il y a 54 ans. Et donc, spontanément, c'est eux qui engagent la conversation avec moi. J'ai même pas. Bon. Et alors là, c'est. Vous m'excuserez, là, j'ai encore menti. J'ai menti parce que j'ai dit que j'étais un prof d'histoire géo en France, en terminale, et que, voilà, il y avait le haut programme, il y a la guerre d'Algérie et tout, et que moi, en France, je trouve qu'on n'entend que le récit français de la guerre d'Algérie. Et j'avais envie d'écouter le récit algérien. Et donc, j'ai fait l'effort comme ça de venir jusqu'à votre village et tout. Bon. Et donc, on parle. Bon. Et ils me disent, ah oui, nous, on est un village qui a été très marqué par la guerre d'Algérie, parce que nous, on est un village de Moudjahidine. Alors ça, on l'entend beaucoup. Hein. Nous, on est un village de Moudjahidine. Et et d'ailleurs, il y a le cimetière là-haut. Vous pourrez aller voir. Il y a le cimetière des Shuhada, donc des martyrs, avec une liste pas possible. Bon. Et tout ça. Et moi, je prends mon air le plus niais possible. Et je sais avoir l'air niais. D'ailleurs, je l'ai peut-être naturellement, je ne sais pas. Ah non. Et je dis, bon, et sinon, il y avait des harkis aussi dans votre village. Là, à la fois, j'ai prononcé un mot très violent, et à la fois, c'est l'honneur du village qui est en jeu. Et il y en a un qui commence à dire non. Et son copain lui donne un coup de coude et dit, bon, attends, non, on n'est pas là pour raconter des mensonges. Et il dit, oui, en fait, il y a eu des harkis. Bon, bref, j'accélère parce que je peux parler pendant des heures, oui. Mais bon, et je vais conclure là-dessus, et puis ensuite, il y aura vos questions. Et je dis, bon, et donc je laisse parler. Et je dis, bon, et qu'est-ce qui leur est arrivé en 62? Alors là, mes vieux monsieur, là, ils baissent les yeux sur les lacets de leurs chaussures, là, ils sont gênés et tout. Et je dis, mais allez, dites-moi la vérité. Et ils me disent, eh ben là, bon, c'est pas la gloire du village, mais voilà, on les a montés en haut du village, là, il y a une falaise et... on les a entourés d'une corde et on les a jetés. Bon, et je dis, ils sont tous morts. Ils me disent, non, il y a celui du milieu, il a survécu. Et d'ailleurs, on n'a pu toucher un cheveu de sa tête. Il est resté dans le village et il a continué sa vie. Bon, il est décédé il y a 2 ans, mais de sa belle mort. Voilà. Donc là... cet exemple-là, il est dans mon livre, il a été vérifié. Bon, je vais conclure mon propos. Donc, sur cette question fondamentale du non-massacre généralisé des harkis en Algérie, j'ai voulu... Donc, je me suis dit que, certes, j'avais fait une espèce d'une ponction statistique dans 60 villages répartis dans toute l'Algérie, mais pour affirmer ce que je finis par affirmer dans mon livre, que la majorité des harkis est restée en Algérie sans être tuée, je voulais trouver une autre source... pour étayer ce propos, cette hypothèse qui commençait à se dessiner. Et là, je me suis adressé à l'ONAC. L'ONAC, je vois qu'il y a des très vieux monsieur dans la salle qui voient très bien ce que c'est que l'ONAC. L'ONAC, c'est l'Office national des anciens combattants. Hein. Et donc, c'est un service du ministère de la Défense qui... s'occupe donc de nos anciens et valeureux combattants et notamment de distribuer la carte du combattant qui donne droit non pas à la gratuité des transports publics, etc., mais à, en gros, à une retraite du combattant qui s'élève à 666 € par an. Elle vient d'être levée, pour ceux qui touchent cette somme, à 674 €. C'est un petit cadeau en espérant que vous allez voter pour François Hollande aux prochaines élections. Alors, c'est une somme qui, en France, donc c'est annuel, hein, 660 € par an, c'est 55 € par mois. En France, bon, ça permet de faire des cadeaux à Noël à ses petits-enfants. Okay. En Algérie, le SMIG est à 180 € par mois. Donc 55 € par mois, C'est le tiers du SMIC, donc c'est pas complètement négligeable. Bon, sauf que jusqu'en 2010, les harkis venus en France avaient droit à cette carte du combattant et à la retraite du combattant qui va avec. Mais la loi française disait que les harkis restés en Algérie n'y avaient pas droit. Bon, c'était une injustice de la loi. Bon, bref. Et là, il y a eu un combat juridique en France, mené par un très bon juriste, fils de harki, qui voilà, s'est dit c'est une injustice, etc. Et il a gagné devant le Conseil d'État en 2010. Et là, ça s'est tout de suite su en Algérie. Et je suis allé demander au responsable de l'ONAC à l'ambassade de France à Alger si il avait eu, par hasard, une augmentation des demandes de cartes de combattant après 2010. Bon, au début, il ne voulait pas me dire ça. Bref, j'ai réussi à avoir le chiffre. Il y a eu un boom des demandes de cartes de combattant. Et aujourd'hui, il y a déjà plus de 60 000 cartes distribuées. Et l'ONAC à Alger reçoit 1 000 demandes par mois. On est 54 ans après les faits. Par définition, il y en a beaucoup qui sont morts de leur belle mort, hein. Donc là, c'est plus que les derniers qui restent. Mais les derniers qui restent, ils sont déjà beaucoup plus que 60 000. D'accord? Bon. Bref, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà donc cette enquête qui bouscule donc cette idée reçue du massacre généralisé des harkis en Algérie et qui, en la bousculant, a dérangé très fortement, on va dire, les milieux en France qui ne sont pas très nombreux mais qui sont très actifs, qui sont, on va dire, c'est plus que les nostalgiques de l'Algérie française. C'est ceux qui sont encore dans un combat pour justifier les ultras de l'Algérie française. Et qui, dans leur discours, l'idée que les harkis se sont fait massacrer par ces affreux fellahs dès que la France est partie, c'est un point important de leur discours. Et donc là, naturellement, ils me sont tombés dessus très violemment. Bon, je m'arrête là. Merci de votre attention et on peut passer aux questions. Merci beaucoup.